Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Potpourri Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Potpourri Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pourri@simpatico.ca.
Bonjour à tous. Welcome to all. Bienvenue à l'édition 2019 du mois de l'histoire des Noirs qui va se passer du 1er au 28 février 2019. Cette année, nous avons choisi comme thème Voix d'émancipation. Voices of Emancipation. Et naturellement, nous croyons que c'est les femmes qui représentent mieux cette voie d'émancipation depuis des temps ancestrales pour ce qui est des communautés noires. Alors nous célébrons, nous porterons nos réflexions sur les femmes de nos vies, sur les femmes qui font en sorte que la communauté puisse bénéficier de leur essor à tout point de vue.
Nek daume nek ki sot Afrika. Nek daume, daume bacho se nek daume. Zozo balenjo se nek daume. Congo aisan se nek daume. Nagobata gri se nek daume nek ki sot Afrika.
Mesdames, Messieurs, bienvenue à Potpourri Show. Aujourd'hui, nous allons justement entendre cette voix et cette grande personnalité de la communauté noire qui nous attend en ce moment en direct d'Haïti, Montréal, pour son cinquième album, Rapadou Créole. Et il est nominé pour les prochains prix Juno au mois de juin, je pense. Alors, il sera des nôtres et nous écoute en ce moment en ligne. Soyez des nôtres, nous avons eu une programmation très chargée. On célèbre la 28e édition du mois de l'histoire des Noirs. Une décennie consacrée aux personnes d'ascendance africaine. Édition spéciale jusqu'au 24 février. Et découvrez les rendez-vous de nos partenaires sur www.popourichaud.com. Et vous pouvez nous entendre où que vous soyez à travers la planète sur www.cit.fm. Histoire, réalité, enjeux et perspectives d'avenir pour les Noirs de l'Ontario et du Canada. Devoir de mémoire.
Au 19e siècle, au début du 19e siècle, l'Occident découvre que c'est l'Égypte et une Égypte noire qui a apporté tous les éléments de la civilisation à l'Europe. Et cette vérité, il n'était pas possible de l'exprimer. Voilà la vérité, voilà la réalité.
On mène contre nous le combat le plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Alors, regardez, dès que vous parlez de patrimoine culturel, la gauche occidentale et la droite se touchent. Et souvent, la gauche est plus minable que la droite. Faites l'expérience, on vous accorde l'égalité abstraite, mais l'idée que des nègres aient pu connaître une promotion historique dans le passé, leur est réfractaire. Ils sont réfractaires à cette idée. Mais la formation qu'ils ont reçue tous dans leur plus tendre enfance, les clichés auxquels ils sont habitués dans leur environnement d'enfance, les caricatures et tout, tout cela les empêchait, les rendait aveugles. Par conséquent, il n'y a qu'un seul salut, c'est la connaissance directe. À formation égale, la vérité triomphe. Et arrachez votre patrimoine culturel. Il n'y a pas d'autre voie.
C'était Cheikh Anta Diop, le plus grand savant africain du XXe siècle.
Usted está escuchando
Terre d'Alliance,
Tierra de Alianza.
C'était Terre d'Alliance
sur France Inter. Con Alexandre Hérault.
Oui, bonjour.
Toronto, c'est les gens qui y habitent.
Pourquoi tu filmes? Tu enregistres en direct maintenant?
Toronto change au fur et à mesure que la population de la ville change. Et
comme ça?
Ben pourquoi pas?
Son identité, c'est la culture et les désirs de devenir de chacun qui y habite.
On est live sur Twitter ou quoi?
Sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Popourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourrichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
Merci, chers amis. Où que vous soyez à Toronto, j'espère que vous êtes au chaud. Nous continuons avec notre quatrième édition du mois de l'histoire des Noirs. Et aujourd'hui, nous avons une émission très, très chargée. Nous sommes en direct. Ah ben, les politiciens, les jeunes et certains professeurs et des touristes sont à Hot House Studio jusqu'à 13h, live, en direct. www.cut.fm. L'ingénieur du son à Toronto, DJ Devera, assisté de Sloana Ballant. Jennifer, merci d'avoir été là. Et notre future grande star, peut-être, c'est notre invité de marque aujourd'hui dans la première heure. Il est auteur d'un livre qu'il est venu présenter à l'émission l'année dernière. C'était au mois de novembre 2018. C'est un ingénieur de profession, madame, monsieur, reconnu par l'Ontario et le Québec. Il est noir, il est africain, il a étudié en Europe. Il nous parlera peut-être de ses expériences en tant qu'être noir en France ou en Belgique. Mesdames, messieurs, mon co-animateur, parce que moi j'ai rien préparé où je suis au chaud, sous un cocotier, tandis que mon invité est à Toronto. Est-ce qu'il est là? Oui, docteur Youssouf Kalogo, est-ce que vous m'entendez bien comme faux?
Oui, bonjour Eric, comment vas-tu au chaud?
Ah ben ça va, j'ai un peu bronzé. Donc vous n'allez pas me reconnaître, malheureusement. Je suis très chocolaté, comme on dit.
Wow.
Alors, donc, merci beaucoup d'être là et j'espère que vous allez endurer, adorer, aimer cette petite expérience. Merci beaucoup de votre temps et nous avons beaucoup de choses au programme. Vous avez reçu la programmation de ce dimanche.
Tout à fait. Écoute, Eric, c'est moi qui vous remercie de me donner l'opportunité d'être, de co-animer cette émission avec vous. C'est avec grand plaisir. et je suis très très heureux.
Très bien, tout au long du mois de février, nous à notre façon, pour Pourri Chaud, depuis de longues dates. D'ailleurs, on ne célèbre pas les Noirs seulement au mois de février à l'antenne, on le fait à chaque jour, on le fait tout au long de l'année, parce que le mois de février, c'est le mois le plus court, n'est-ce pas? Alors, on vous propose des rendez-vous inédits en compagnie de spécialistes, d'historiens exceptionnels, d'ingénieurs, auteurs. D'ailleurs, votre livre, c'est « Digestion anaérobie des eaux usées », une étude de cas aux éditions Université Européenne, publiée en novembre 2018, qu'on peut retrouver, qu'on peut acheter en direct sur Amazon, n'est-ce pas? Ça va bien? Oui.
Waouh, merci d'avoir retenu le titre de cet ouvrage. Là, je suis vraiment impressionné.
Oui, ben, la mémoire des fois flanche, mais pour aujourd'hui, ça va, on m'a donné des énergies là, solaires, je pense. Et nous avons un jeu concours, madame, monsieur. Il faut répondre correctement aux quatre questions chaque semaine. Il faut absolument répondre correctement à toutes les questions tout au long du mois pour gagner le Grand Prix, peut-être un voyage au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, peut-être dans les Antilles, au Guadeloupe, en Martinique. Alors, mais il faut répondre à toutes les questions. Hein. Alors, vous nous envoyez un message à popourri@cut.fm. Je vous donne la question de ce dimanche dans quelques instants. Et nous avons aussi des billets de plusieurs partenaires, docteur Kalogos. C'est intéressant de voir l'intérêt de nos partenaires, même s'ils font pas, ils organisent pas nécessairement des choses, mais ils nous écoutent. Ils sont plusieurs à avoir réagi, répondu à nos appels depuis le déclenchement de cette opération spéciale tout au long du mois de février. Il y a le Théâtre français de Toronto qui nous offre un billet de spectacle pour une pièce qui s'intitule 26 Lettre à danser de la compagnie montréalaise Bouge de là. Bouge de là, ça me fait penser à un artiste français. Bouge de là, n'est-ce pas? Alors, c'est présenté par le Young People's Theatre. Allez sur le site youngpeoplestheatre.ca et là, vous allez recevoir un billet, madame, monsieur, de votre choix, le 26 février jusqu'au 16 mars. Plusieurs spectacles et nous remercions, bien sûr, notre ami José Durand-Lot qui nous écoute et qui veut faire des heureux à cette émission. Nous avons aussi l'Alliance française et notre partenaire Batuki Music Society qui vous offre une paire de billets pour un show à ne pas rater, madame, monsieur. C'est une artiste originaire du Bénin, mais qui vit et qui fait carrière à Montréal et en Europe. Elle s'appelle Karine au micro. Elle sera à l'Alliance française le samedi 23 mars 2019. Nous avons une paire de billets pour vous, madame, monsieur, si vous répondez correctement aux questions, ou même si ça ne vous intéresse pas de répondre aux questions, c'est pas grave, on va vous offrir des billets. Envoyez-nous vos messages à popourri@cut.fm. Alors, chers amis, en ce dimanche 17 février, entre mémoire et réalité, quels sont les clichés, les stéréotypes bien souvent associés au noir? Pourquoi certains auditeurs, plus de 230, hein, qui sont toujours insatisfaits et inquiets pour l'avenir de leurs jeunes, des jeunes noirs francophones en Ontario et au Québec? Oui, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent dans la région de Montréal, Montréal-Nord, et aussi à Gatineau, à Ottawa. On vous salue. Ah oui, on me dit qu'il y a aussi des gens qui nous écoutent en ce moment à Toronto, mais à Hamilton et Welland, parce qu'il se passe des choses très intéressantes là-bas le 23 février prochain, avec une soirée spectacle, Justine Gogoua, Remesha Drums, Blandine, la belle Blandine qu'on connaît très bien, et Serenade d'Haïti. À ne pas rater si vous êtes dans la région de Welland, de St. Catherine, de Hamilton, le 23 février. Allez voir ce spectacle Festive Ébéné 2019, organisé par l'organisme phare de la région de Hamilton, Niagara Falls, un organisme communautaire à la défense des droits des femmes. C'est Sophie Franc. Allez sur le site www.sophiefranc.ca pour avoir tous les renseignements. Ça bouge, hein, n'est-ce pas, docteur Kalogo, dans la région de l'Ontario? C'est intéressant de voir qu'à chaque année, il y a des activités, des événements, des spectacles. Ce qui manque, d'après moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, il manque un peu de débat,
de tables rondes approfondies pour justement voir ces études, ces rapports, parce que ça revient d'année après année. On sent qu'il n'y a pas eu tellement de progrès au niveau de l'emploi, au niveau des relations entre la police et les Noirs. J'ai des statistiques, des rapports que je vais dévoiler avant la fin de la première heure. Comment expliquer qu'on s'attache surtout sur le folklore, bien souvent? Et là, je ne veux pas nécessairement pointer du doigt à nos partenaires. Bravo aux artistes, bravo à ces danseurs, à ces musiciens. Mais il semble qu'il y a aussi un vrai besoin de débat, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait, Eric. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que la fête du mois de l'histoire des Noirs doit aussi aller un peu au-delà du côté tout à fait émotionnel. Mm-hmm. Il serait effectivement bien d'avoir des tables rondes, des émissions radio, des émissions TV, et convier des historiens, des scientifiques, des économistes,
voilà,
des juristes, des littéraires, des professionnels des arts pour venir parler de réalisations de Noirs dont ils sont au courant et qui malheureusement restent encore cachés.
Oui, et vous savez, les Noirs ne sont pas tombés avec la dernière goutte de pluie. Ils sont ici depuis 400 ans, mais on ne sait pas. Beaucoup d'auditeurs, des franco-ontariens et de Québécois, je ne nommerai pas de nom, c'est promis, mais ils m'ont dit, c'est la première fois qu'on apprend que les Noirs sont ici depuis si longtemps et qu'il y a tant de professeurs, d'ingénieurs et de professionnels qu'on ne connaissait pas. C'est incroyable, docteur Kalogo, en 2019.
Mais oui, c'est là tout l'intérêt de la fête de l'histoire, de la fête du mois de l'histoire des Noirs. À mon avis, ça contribue à pouvoir mettre en évidence la présence des Noirs ici en Ontario, au Canada. Et c'est également très important pour l'épanouissement de nos enfants, et parce que ça leur permet de développer en eux ce que j'appelle l'estime de soi. C'est important.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce grand producteur, animateur dont j'ai eu la chance et le bonheur de rencontrer à plusieurs reprises, Elikia Mbokolo, producteur, animateur du magazine Mémoire d'un continent à Radio France Internationale. Il a fait beaucoup d'émissions sur justement l'histoire des peuples noirs. Et une des émissions que je vais présenter vers midi aujourd'hui, y a-t-il eu pillage aux dépens des Africains? Faut-il restituer les œuvres? Vous savez, ça a fait débat il y a quelques années en France, en Belgique, en Europe, n'est-ce pas? Et comment procéder si on veut restituer justement ces œuvres d'art? L'Afrique est reconnue pour ses œuvres d'art, n'est-ce pas, cher professeur? Et on a justement pillé parce qu'on pensait que c'était des ignorants, c'était des gens qui n'étaient pas capables de gérer leurs œuvres. Et on les retrouve d'ailleurs dans certains musées en France, en Belgique. Et on va parler avec Guido Cressel, qui est directeur du Musée Royal d'Afrique Centrale à Tervuren, en Belgique. D'ailleurs, vous avez vécu, étudié en Belgique. Parlez-nous un petit peu brièvement de votre expérience en tant qu'étudiant noir, étudiant à Belgique, en Belgique.
Écoute, Eric, j'ai passé des années fabuleuses en Belgique, ce pays qui m'a permis en quelque sorte d'être... ce que je suis aujourd'hui, c'est la Belgique qui m'a formé. Notamment, je suis passé à Luxembourg, à Bruxelles et à l'université de Gand, où j'ai terminé ma thèse de doctorat. J'ai énormément appris en Belgique. C'est également en Belgique que j'ai commencé ma carrière, grâce à une dame fabuleuse que je tiens cet après-midi à remercier, à Sophie Legault, qui... avant la fin de mes études, je reçois un email me disant « Ben écoute, Youssouf, je pars de mon poste. Si cela t'intéresse, dis-le moi, parce que je pense dans mon entourage qu'il n'y a personne capable de faire ce travail, sauf toi. Wow. » Et j'en ai en parlé à mes supérieurs. Uh-huh. J'attends ton OK pour pouvoir avancer sur ce dossier.
Très bien.
C'était vraiment... extraordinaire.
Oui, mon co-animateur, madame, monsieur, il parle bien. Je pense qu'on va l'embaucher tout au long de l'année. Mon Dieu, qu'il est bien. Docteur Youssouf Kalogo, madame, monsieur, il est auteur et ingénieur. Nous allons aussi recevoir Docteur Kalogo Wesley Louisin. C'est ce jeune haïtien qui fait carrière à Montréal. Mais malgré qu'il vit et il fait carrière. Il a un succès fou au Japon, au Sénégal, en Belgique, en France, à Montréal bien sûr. Et il est même nominé pour les prochains Juno au mois de juin au Canada. Il faut le faire. Et il sera des nôtres. Il nous écoute actuellement sur Internet à Montréal avant son départ pour France, pour Paris bientôt. Mais malgré son succès, il pense à ces jeunes de son île natale. Et aujourd'hui, plus que jamais, notre cœur est tourné vers Haïti parce que malheureusement, ça va mal dans ce pays. Alors, Wesley sera des nôtres vers 12h30, madame, monsieur, à ne pas rater. Et son album Rapadou Créole est nominé aux 48e édition des prix Juno. Il faut le faire. C'est bien hein, de voir ce jeune. D'ailleurs, il est photogénique. Un vrai acteur quand on le regarde. Et ce que j'aime, c'est son style de musique. Ce n'est pas seulement des airs voodoo, bien des musiques d'Haïti, traditionnelles d'Haïti, mais il sait comment mélanger, agencer du Cuba aux afro, au rythme pop et aussi un peu de folklore et de musique de l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est. C'est vraiment, je pense, un pot-pourri dans sa musique et il parle anglais, français, l'espagnol, jeune encore et il sera des nôtres. Nous sommes vraiment chanceux de l'avoir. Voilà une autre grande vedette, professeur Kalogo.
Oui, je suis, Eric, tout à fait impressionné et heureux d'entendre que Wesley a décidé d'aller aider les jeunes de son île natale. Mmh. Vous savez que dans les pays en développement, la jeunesse a vraiment besoin d'aide et c'est assez remarquable qu'un des leurs qui se débrouillent pas mal décident d'aller avec un projet et de les aider. En tout cas, félicitations à Wesley.
Je ne sais pas si vous connaissez notre invité dans la deuxième heure toujours de Reflet Salvéo. C'est un organisme qui fait la promotion, qui défend en quelque sorte les droits des besoins en santé pour les francophones de la région du Grand Toronto. Reflet Salvéo et son directeur général Gilles Marchildon, que peut-être vous connaissez. D'ailleurs, vous siégez toujours hein, au Centre francophone, sur le conseil d'administration du Centre francophone, oui?
Oui, je siège toujours avec plaisir au Centre francophone de Toronto et je connais assez bien Reflet Salvéo. J'ai malheureusement pas encore rencontré physiquement Gilles Marchildon.
Ah ben, là...
J'ai hâte de le rencontrer. Mais bon, j'ai déjà connu des gens qui ont travaillé pour Reflet Salvéo.
Ben, Gilles Marchildon, c'est un peu la figure phare dans le monde de la santé, mais aussi défense des droits des francophones dans tous ses aspects. Et il donne des conférences, allez sur le site, il a aussi un blog et il donne ses coups de cœur, ses coups de gueule. Et vous savez, dans les soins de santé en français, en Ontario, ça bascule ces temps-ci avec le gouvernement de l'heure de l'Ontario. Et malgré tout, Reflet Salvéo réalise actuellement un sondage pour développer son plan stratégique pour les trois prochaines années. Et l'organisme a besoin de vous, madame, monsieur. Moi, je l'ai fait la semaine dernière. Ça prend que 10 minutes, même pas. Allez sur le site de Reflet Salvéo pour avoir tous les renseignements, reflet-salvéo.ca. Et Gilles Marchildon, directeur général de Reflet Salvéo, sera des nôtres vers 12h45-50 environ. Et Haïti, oui, justement, nous avons reçu beaucoup, beaucoup de messages de Port-au-Prince parce que nous avons plusieurs dizaines d'auditeurs qui nous écoutent sur Internet. Le peuple est à bout, nous dit-on. Il a perdu confiance en tous ses dirigeants, exécutifs, législatifs, judiciaires, secteurs politiques, économiques, sociaux. Il faut lui offrir au plus vite les voies et moyens de sortir de cette misère ignoble. Misère inadmissible de ce pays le plus riche de la Caraïbe ayant une histoire unique. Le Canada a annoncé vendredi, madame, monsieur, la suspension des expulsions des Haïtiens vers leur pays d'origine et a rappelé aux Canadiens à éviter tout voyage vers Haïti, tandis qu'une centaine de touristes québécois bloqués par les violentes manifestations ont été évacués hier samedi. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, s'est dit très inquiet des événements en cours en Haïti. Donc, comment expliquer, cher ami, année après année, tremblement de terre, catastrophe, ce pays n'arrive pas à se relever. C'est incroyable, hein?
Oui, Eric, c'est assez dommage de voir la situation que vit Haïti en ce moment. Et nous prions pour que tout rentre dans l'ordre le plus rapidement possible, afin que les populations puissent vaquer à leurs occupations dans la paix. et savourer le plaisir de vivre.
Et puis j'ai un invité surprise pour vous, il voulait absolument participer à cette émission quand il a appris que vous étiez des nôtres. Vous savez, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent, hein, cher ami.
Waouh, c'est extraordinaire, Eric.
Alors, il y a deux.
Je suis curieux de savoir.
Alors, il y a deux invités surprises. Il y a deux invités, mais je vais dévoiler seulement le premier. Il est conteur, humoriste. Ça vous dit rien? Il est camerounais, très connu en Europe. Et lui, ses spectacles, il se base sur les proverbes africains. Ça vous dit toujours rien, non?
Non, pas encore, mais j'adore ça, les proverbes africains.
Moussa Saïdou Abacha.
Waouh!
On aura un extrait de son spectacle. Mais pour tout de suite, nous allons passer, on va replonger dans l'histoire, cher ami. Alors, et encore une fois, merci d'être là. Je suis en compagnie, mesdames et messieurs, dans cette première heure avec Dr. Youssouf Kalogo. Il est auteur, ingénieur, candidat déchu, il faut le dire, parce que vous avez à cœur l'éducation de nos enfants. Et je suis convaincu, vous avez reçu d'ailleurs des prix honorables pour votre dévouement, vos efforts. Bravo, félicitations. Mais peut-être une prochaine fois, vous serez conseiller scolaire, hein? Je l'espère, un jour.
Je l'espère également. J'en profite pour souligner le fait que ce fut une expérience fabuleuse. J'ai rencontré pas mal de monde que je n'aurais jamais pu rencontrer si je n'avais pas été à ces élections-là. Et je crois qu'Éric fait partie de ces personnes-là.
Oui. Alors, l'histoire des Noirs par les femmes, le portrait de Harriet Tubman. Beaucoup de gens se sont posé la question, surtout depuis notre invité de la semaine dernière du Collège Glendon. Allez sur le site www.popourichaud.com pour réentendre cette émission. Si vous savez qui était notre invité du Collège Glendon, elle est professeure, elle est femme, elle milite pour les droits des femmes, elle a participé à plusieurs études de sondages et des œuvres extraordinaires pour faire avancer les femmes africaines en Ontario et au Canada. Eh bien, elle est la directrice générale de cet institut qui s'appelle Harriet Tubman, siège au Collège Glendon, l'Université York en Ontario. Eh bien, je voulais absolument vous présenter qui est cette femme, Harriet Tubman. Certains la décrivent un peu comme Moïse du peuple noir, militante des droits humains, qui a participé de nombreuses façons à la lutte contre l'esclavage et le racisme. On écoute un extrait, professeur Kalogo, et on revient juste après.
Le chemin de fer clandestin était un réseau secret de routes et de maisons sûres qui a permis aux Noirs d'échapper à l'esclavage et de se réfugier au Canada, ainsi que dans certains États libres du Nord. Certains croient que des messages secrets, dissimulés dans des motifs de courte pointe, ont aidé des esclaves à s'affranchir dans les États du Sud. Dans la même veine, on croit que les chants de gospel servaient de moyen de communication entre les esclaves qui empruntaient le chemin de fer clandestin. Les paroles contenaient des messages codés et des avertissements au sujet de leur déplacement. Bien des gens doivent leur liberté à la détermination, à la bravoure et à l'altruisme d'une seule personne. Cette personne se nomme Harriet Tubman. La Moïse noire, comme on la surnommait souvent, est bien connue pour avoir mené nombre d'esclaves vers la liberté au Canada en suivant l'étoile polaire. Elle a effectué d'innombrables voyages sans jamais perdre un passager. Madame Tubman, une esclave fugitive du Maryland, était résolue à abolir la misère et les souffrances de son peuple.
Avant de devenir la célèbre conductrice du chemin de fer clandestin, Harriet Tubman était une esclave africaine. Comme elle était très peu supervisée, elle se sentait presque libre lorsqu'elle travaillait à abattre des arbres et à couper du bois au Maryland. Un jour, alors qu'elle était dans les champs, elle aperçut quelqu'un qui essayait de s'échapper, mais en voulant aider cette personne, elle fut blessée. Cet événement a raffermé son désir de liberté. Harriet Tubman était le plus jeune de sa famille, avec laquelle elle a travaillé plus tard dans les champs. Quand elle s'est mariée et a découvert que son mari ne voulait pas partir vers le nord avec elle, Elle est partie toute seule.
Elle prit le risque de se rendre à Philadelphie, où elle s'est associée à des abolitionnistes et en a beaucoup appris sur certaines parties du réseau qui reliait le chemin de fer clandestin. En 1850, après que le gouvernement américain eut promulgué la loi sur des esclaves fugitifs qui avait une très large portée, Harriet guida des esclaves fugitifs jusqu'au Canada. Des propriétaires d'esclaves furieux promirent des récompenses pour sa capture, mais elle poursuivit son travail en dépit des énormes risques personnels qu'elle courait. Tenace et courageuse, malgré sa petite stature, elle portait toujours une arme pour intimider ceux qui appuyaient l'esclavage et pour décourager les esclaves d'abandonner en cours de route un voyage aussi ardu. Elle menaçait quiconque voulait faire demi-tour, car elle savait que les personnes qui se désistaient représentaient un danger. Elles étaient susceptibles de révéler l'emplacement des routes et des maisons sûres.
En tant que chef de train du chemin de fer clandestin, Madame Tubman était confrontée à la difficulté de maintenir la motivation des gens et de les garder groupés tandis qu'ils voyageaient la nuit et se dissimulaient le jour. Étant donné la réussite de Madame Tubman dans l'organisation de ses fuites en groupe, le propriétaire d'esclaves offrait des fortes récompenses pour sa capture. Elle aurait dirigé environ 19 missions d'évasion, même si elle savait qu'elle pouvait être torturée, tuée ou revendue plus loin dans les États du Sud. C'est la perte des membres de sa famille qui effrayait le plus Harriet Tubman. Elle se fait un honneur de sauver tous les membres de sa famille et de les installer en Ontario et par la suite dans l'État de New York. Elle a consacré sa vie à la liberté des autres.
Sainte-Catherine, en Ontario, était l'une des villes traversées par Harriet au cours de ses voyages. Comme cette ville offrait des possibilités d'emploi aux anciens esclaves, bon nombre d'entre eux s'y sont établis, incluant ses parents, ses frères et sœurs et leurs familles. Harriet Tubman a habité à Sainte-Catherine de 1851 à 1857. Le rôle joué par Harriet dans le chemin de fer clandestin fut l'une des nombreuses réalisations inspirantes de sa vie. Elle a agi à titre d'activiste au sein du mouvement abolitionniste, à titre d'infirmière au cours de la guerre de sécession et à titre d'espionne pour les forces de l'Union en Caroline du Sud.
Le chemin de fer clandestin n'avait plus raison d'être une fois la guerre de sécession terminée. Harriet Tubman a travaillé activement pour les forces du Nord comme infirmière, espionne et cuisinière. Elle était en faveur du droit de vote pour les femmes. Et elle a fondé une résidence pour les sans-abri. Elle est décédée en 1913, à l'âge de 93 ans.
God's gonna trouble the water.
Wonderful. Et alors, professeur? C'est riche, hein?
Ben, Eric, c'est une histoire fascinante, riche. Je pense que l'œuvre de Harriet Tubman est très inspirante. C'est une femme exceptionnelle qui a permis, à mon avis, aux membres de la communauté noire de rester debout, fort et digne. J'en suis fier.
Moi, il y a deux mots qui me frappent et qui me collent à la peau. Clandestin et espionne. Ça veut dire quand on est noir ou une minorité, on peut être francophone minoritaire dans une mer anglophone. Des fois, ce n'est pas toujours facile. Et il faut lutter. Et pour lutter pour ses droits, il faut être un peu clandestin et espion, n'est-ce pas? Je plaisante. Je remercie beaucoup Dr. Gertrude Mianda, professeur Gertrude Mianda, qui est la directrice générale de cet institut Harriet Tubman à l'Université de York. Elle est sur leur site, ils organisent des conférences, des ateliers très intéressants. J'espère qu'ils vont organiser des conférences très prochainement et surtout en français. Et nous serons très heureux de travailler en partenariat avec eux. Et beaucoup de gens justement ne savaient pas qu'il y avait cet institut, Monsieur Calogo, en Ontario. C'est incroyable, hein?
Ben, je fais certainement partie de ces personnes-là et je suis heureux de savoir qu'un tel institut existe ici en Ontario.
On fait une courte pause et on revient tout de suite. Et oui, à ne pas rater, madame, monsieur, vers 10h45, son directeur général refait Salvéo sera des nôtres. Avez-vous complété votre sondage? Soyez des nôtres. Êtes-vous un fournisseur de services? Faites-vous partie de la communauté francophone? Connaissez-vous vos droits pour recevoir des soins de santé en français? Qu'est-ce que l'offre active en santé? Alors, Reflet Salvéo, l'organisme à but non lucratif, est là pour vous accompagner dans votre démarche pour trouver des soins, des bons services en santé. Reflet Salvéo est chargé d'engager la communauté francophone dans son système de santé, mais également de conseiller les réseaux locaux d'intégration des services de santé sur leur politique de service. Connaissez-vous les slogans de Reflet Salvéo? Compétence, écoute, engagement, solidarité. Reflet Salvéo, le reflet des besoins en santé pour les francophones de la région. Que vous soyez immigrant, femme, jeune, personnes âgées ou personnes ayant un handicap, ou vivant avec le VIH, Reflet Salvéo prend en compte vos besoins dans son plan d'action. Découvrez tous les thématiques, les projets et les offres d'emploi disponibles en ce moment chez Reflet Salvéo en visitant le site web www.refletsalvéo.ca. Faites comme Christopher, devenez membre et prenez votre santé en main. Communauté informée, communauté en santé, ça commence chez Reflet Salvéo.
CIUT 89.5, Toronto.
Et oui, 28e édition du mois de l'histoire des Noirs. Devoir de mémoire, édition spéciale au Hot House. Et la semaine prochaine, nous aurons notre dernière édition. Si cela vous intéresse, soyez les nôtres. Envoyez-nous un message immédiatement à popourri@cut.fm. Ce sera une émission un peu choc, peut-être. Parce qu'il y a encore des cris, des pleurs. Il y a des gens qui n'arrivent pas à avoir leur place au soleil, comme on dit. Février, le mois de l'histoire des Noirs. Et il est reconnu officiellement par le gouvernement fédéral du Canada depuis 1995. Février, donc, c'est l'occasion de célébrer le patrimoine, les traditions, les réalisations et la culture des populations et de la diaspora d'ascendance africaine. Et tous les ans, notre émission rend hommage à ces personnes. Un lieu ou une histoire qui met en valeur le patrimoine africain. L'expérience, les réalisations des Noirs sont trop souvent passées sous silence dans les livres d'histoire et les musées. Cette année, nous célébrons et nous mettons en lumière le récit, en grande partie oublié, des premières colonies. Et nous braquons nos projecteurs sur les jeunes, les femmes, les experts noirs et francophones de la région de Toronto, de l'Ontario, du Canada, qui nous aideront à leur façon à cheminer dans cette quête sur la mémoire de cette histoire trop souvent mise en rancard avec nos institutions au Canada. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir comme co-animateur le docteur et auteur Youssouf Kalogo dans la région de Toronto et qui sera des nôtres jusqu'à midi. Pour être des nôtres, madame, monsieur, envoyez-nous un message. Dimanche prochain, c'est la dernière émission et nous attendons votre participation à popourri@cut.fm.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voile.
Adrabe la cosa, adrabe la cosa, dingue dong.
Non, le temps.
Dingue dong.
Écoutez la planète chanter.
Vous écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM, une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà, toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT 89,5 FM.
C'est bon. L'Afrique, Afrique, Afrique, Afrique. L'Afrique est un continent riche. L'Afrique est un continent riche matériel. Touristique, panoramique, très bien. Mais malgré son immense richesse, nos pays sont victimes du sous-développé, des endettés. Vers l'Occident, nous passons notre temps à faire des emprunts financiers pour soi-disant venir faire des investisseurs. Mais une fois que cet argent arrive dans nos pays, il est utilisé individuellement au lieu d'être utilisé collectivement. Musique.
Oui, CUT 89,5 FM, certains de nos amis africains, chers amis, ont le sens de l'humour, n'est-ce pas?
C'est tout à fait intéressant d'entendre cette histoire-là.
Et oui, il faut bien rire, il y a une richesse incroyable, il y a des talents incroyables en Afrique. Les gens parlent toujours de l'Afrique, misère, pauvre, misérable. Moi, je peux vous dire qu'il y a des émissions de télévision qui marchent très bien, il y a des entrepreneurs, il y a des investisseurs qui même investissent en Europe maintenant, au Canada. Il y a cet échange, mais... c'est pas suffisant, c'est pas assez visible, n'est-ce pas? Il y a encore du chemin à faire, n'est-ce pas?
Oui, il y a un grand chemin à parcourir. Et même dans la mentalité des gens, bah, j'ai une histoire drôle à te raconter, Eric. Mm-hmm. Lorsque je commence ma carrière professionnelle en Belgique, on reçoit un stagiaire qui vient d'Amérique du Sud. Et à quelques jours de son départ, il vient à mon bureau et il me dit « Ah, Youssouf, je vais te dire quelque chose, mais il ne faut pas se fâcher. » J'ai dit, OK, vas-y, mon ami. Il dit, il faut pas se fâcher. Il dit, OK. Il dit, Youssouf, tu es bizarre. Tu es bizarre. Je vais t'expliquer. Tu viens toujours à l'heure au travail. Tu es vraiment bizarre.
Ah oui.
Tu prends ton travail au sérieux. Tu es vraiment bizarre. Tu produis du bon travail. Tu es bizarre. Tu n'es pas un bon noir. Tu n'es pas un bon africain. Tu es vraiment bizarre.
Incroyable.
J'ai rigolé à mort.
Oui, j'imagine.
Et je vais te demander, est-ce vraiment vrai que je suis bizarre? Il a répondu avec un silence, tu n'es pas un bon noir. Je lui ai dit, merci pour le compliment, je travaillerai encore davantage pour rester bizarre toute la vie.
C'est ça.
Et que je considère désormais qu'être noir ou africain, bizarre est une marque d'excellence professionnelle.
Mais vous savez, il y a encore malheureusement en 2019 des clichés comme ça, hein? Il y a des gens qui, pour eux, ils voient les Noirs d'une certaine façon. C'est pour cette raison qu'il y a cet artiste écrivain que vous connaissez sans doute, le plus grand, je pense, à d'Haïti, qui siège maintenant à l'Académie française. Vous connaissez ce monsieur?
Non, pas vraiment.
Ah, j'aimerais bien l'avoir à l'émission la semaine prochaine. C'est lui qui a écrit le livre qui a choqué les Québécois. Comment faire l'amour avec un nègre sans se être fatigué?
Oh là là.
Et je vais laisser les gens languir. Envoyez-nous un message si vous connaissez le nom de cet écrivain. C'est un Haïtien très 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 connu qui a écrit plusieurs livres et qui a été reconnu d'ailleurs par ses pairs. Il siège, tenez-vous bien, à l'Académie française. C'est pas n'importe qui peut entrer dans l'Académie française, n'est-ce pas?
Non, pas du tout, pas du tout. Il faut des sommités comme ce monsieur-là et Léopold Sédar Senghor.
Alors, justement, il y a trop de clichés et les gens connaissent mal l'histoire, les compétences. Mais aussi, docteur Kalogo, des fois, on ne veut pas reconnaître la compétence des Noirs, tout court, parce qu'on les a casés dans un créneau. Et plusieurs Noirs, là, des professeurs, des ingénieurs, des écrivains, en Ontario, au Canada, en France, me disent la même chose. dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont cette chance d'être au pouvoir décisionnel, ils ont classé des Noirs dans un créneau et qui les empêche à avancer, à progresser dans leur carrière.
Oui, tout à fait, Eric. Ce n'est pas facile. Il faut continuer de se battre pour gagner sa place au soleil, comme on le dit. Ma philosophie est la suivante. Ce n'est pas les actions d'une personne ou de quelques personnes sur les 37 millions d'habitants que nous sommes qui doivent me faire changer d'objectif. Il faut apprendre à développer cette carapace-là, comme on dit, pour résister et mettre le cap sur son objectif. C'est très important. Mais je reconnais qu'il y a par moments des difficultés au niveau de la recherche d'emploi. Il y a des problèmes de reconnaissance de diplôme, problèmes de reconnaissance d'expérience. Il y a des barrières systémiques qui finissent par affaiblir le moral de beaucoup de personnes, de beaucoup d'Africains, malheureusement. Ben, il ne faut pas se laisser abattre. Il faut toujours continuer. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un qui est venu, je pense, d'Haïti, avec un doctorat en médecine, qui arrive à Toronto, qui n'a jamais pu exercer comme docteur. Il a été maintenu dans un niveau d'auxiliaire sous forme d'infirmier. Et ça, ce fut un choc pour son enfant. Ce fut un choc pour elle, bel et si bien que l'enfant s'est dit qu'elle doit devenir médecin. Et je vous avoue qu'elle est médecin aujourd'hui dans une grande université canadienne. C'est fabuleux.
Justement, nous avons reçu beaucoup, beaucoup de messages. Et on nous dit, un des messages que je lis en ce moment, en dépit de niveaux d'éducation plus élevés, les femmes noires sont plus susceptibles que les femmes blanches d'être au chômage ou d'être sous-employées. 8,8% des femmes noires ayant un diplôme universitaire sont au chômage, contre 5,7% des femmes blanches ayant un diplôme d'études secondaires. Le statu quo est inacceptable. Nous ne pouvons pas être une société prospère alors que certaines communautés font face à des obstacles qui les empêchent d'exploiter pleinement leur potentiel. D'ici à 2036, on estime que les personnes racialisées représenteront 48% de la population ontarienne. C'est fort comme chiffre.
Oui, c'est assez fort. C'est un chiffre très élevé. Mais je pense que le gouvernement travaille fort à pouvoir éliminer tout ce qui est barrière systémique au niveau de l'emploi des minorités visibles. Ça prendra du temps certainement, mais je pense qu'il ne faut pas se décourager. On sort perdant quand on se décourage, ça c'est clair. Il faut continuer à se battre, il faut continuer à travailler fort, il faut continuer à mériter ce dont on a droit.
Un autre commentaire d'un auditeur. Alors que certains organismes font des efforts et d'autres des petits pas de tortue pour reconnaître les trésors cachés chez les membres de la communauté d'ascendance africaine, surtout au sein de la communauté francophone, il y a un vrai débat sans fin chez les jeunes noirs qui se disent matraqués et ont la peur au ventre quand ils sont sur la route. Et surtout s'ils conduisent une belle voiture, n'est-ce pas ? Et ici, je dois réitérer ma promesse, encore une fois, parce que cette personne m'a demandé qu'il veut garder l'anonymat. C'est promis, c'est promis. Vous savez, ce sont plusieurs d'auditeurs franco-ontariens et québécois. Ils sont nombreux à l'écoute en ce moment même. Et ils sont gestionnaires, professeurs, directeurs généraux. Et plusieurs m'ont avoué, en effet, que certains organismes francophones sont en retard pour reconnaître et admettre. C'est déjà un grand pas, il me semble. D'ailleurs, il y a un article sur la page Facebook de #ONFR, je ne sais pas si vous l'avez vu cette semaine, qui démontre que certains organismes francophones sont mal à l'aise avec toute la question LGBT et ils refusent d'adopter une politique zéro. Quelle est votre réaction?
Ben, je pense qu'il faut être tolérant. Il est important d'être tolérant. On ne peut pas construire une société où il n'y a pas de tolérance. Et c'est malheureux qu'on en arrive à des situations pareilles. Mais je reste optimiste et convaincu que les mentalités vont évoluer. En tout cas, je suis très, très optimiste en ce qui concerne l'avenir de nos enfants ici au Canada et que beaucoup de problèmes auxquels nous faisons face, ils auront moins de problèmes que ce que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, en 2018, le Comité d'action et de défense des Noirs questionné plus de 130 membres de la communauté noire au sujet de leur relation avec la police. Là, je parle ici de Toronto. Et on a parlé aussi des craintes. Vous savez qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles, de réactions dans les relations entre la police et les jeunes noirs dans la région. D'ailleurs, ça dure pas seulement depuis quelques années. Il y a eu le rapport Stephen Lewis dans les années 90. Il y avait des jeunes qui avaient manifesté bruyamment. Il y avait même violence dans les années début 90 dans le cœur de Yorkville, centre-ville de Toronto, parce que les jeunes se sentaient lésés dans leurs droits et ils ne pouvaient pas avoir accès à la formation, à des emplois. Et malgré tout, il y a encore, en 2019, selon un rapport du Comité d'action et de défense des Noirs de Toronto, qui a retenu d'ailleurs les services du professeur Scott Wortley du Centre de criminologie et d'études sociolégales de l'Université de Toronto. Là, j'invente absolument rien. Ce professeur Wortley a analysé les données touchant deux périodes à la fin de comparaison de janvier 2000 à 6 juin 2006. Et du 1er janvier 2013 au 30 juin 2017. Et le professeur a conclu que la situation a très peu changé depuis le début des années 2000. Pour Valérie Steele, du Comité d'action et de défense des Noirs, la brutalité policière fait partie de notre quotidien depuis plus de 30 ans dans cette ville. Et elle dit que ce racisme anti-noir est devenu intergénérationnel. Il contribue à l'échec de notre communauté. Et là, je vais vous demander d'écouter un extrait d'un très beau reportage, « Il faut rendre à César ce qui est à César », fait par Radio-Canada l'année dernière, je pense. Et ça avait suscité beaucoup de réactions de la part des familles noires d'ascendance africaine. Vous allez entendre dans le quartier Montréal-Nord. Vous connaissez un peu Montréal, oui?
Oui, un tout petit peu.
Ils vont témoigner un peu de leur... expériences avec la police de Montréal. On écoute.
Jethro et Jonathan ont grandi à Montréal-Nord. Ils aiment leur ville. Mais ils rêvent du jour où ils seront traités comme monsieur et madame tout le monde.
Pour moi, le profilage racial, c'est quelque chose que nous, on vit tous les jours. Dans le fond, on veut des arrestations illégales, des faux jugements. C'est un mix de tout, dans le fond.
Ouais, c'est ça. Mais je ne sors même plus.
Les deux amis d'enfance sont membres d'Evolution. L'organisme aide de jeunes adultes à se défendre quand ils sont injustement interpellés ou arrêtés. Ce qui arrive aussi aux pères de famille sans dossier criminel, comme messieurs Désiré et Brismar.
Moi, je voulais une Jaguar pour m'arrêter souvent. Mais la Jaguar, c'est pas comme si je l'avais volée, je l'ai achetée, tu comprends, mais... Pour eux, c'est souvent j'étais un drogue dealer ou bien j'étais n'importe quoi, tu comprends?
Moi, je suis plutôt surpris quand la police m'arrête pas une journée.
Vous êtes arrêté régulièrement?
Régulièrement.
Vous dites des fois trois fois par jour?
Ah oui, trois fois par jour.
C'est pas une exagération?
Non, j'exagère pas.
Mais pourquoi?
Mais parce que je suis noir, je suis gros, puis je porte une casquette.
Je roule une caisse.
Puis je roule en camion.
Rouler en Range Rover à Montréal-Nord attire les soupçons. M. Brismar travaille comme col bleu à la Ville de Montréal depuis 20 ans. Il a appris à ne pas réagir aux interpellations multiples, à ne pas poser de questions. Quand nous embarquons avec lui, rapidement, un policier se met à le suivre.
Les enregistrements, il ne faut pas qu'ils soient trop loin. Ils sont juste ici.
Nerveux, M. Brismar prépare ses papiers. Trois rues plus loin, la police cesse de le suivre.
Et oui, voilà, c'est la réalité, malheureusement. Hein? On est toujours au Canada, là. Docteur Kalogo.
Oui, c'est assez malheureux d'entendre des situations pareilles. Mais écoute, Eric, moi, j'ai plutôt une histoire drôle à te raconter, là. En fait, j'ai un appartement en location quelque part à Etobicoke et malheureusement, il m'est arrivé de mettre le locataire dehors pour loyer impayé. Et là, pour le faire, bon, il faut que le shérif vienne à mettre en œuvre son expulsion. Mmh. On a rendez-vous, j'ai reçu le lieu du rendez-vous, et avant d'y arriver, j'appelle une compagnie pour les serrures. Il y a deux employés de cette compagnie qui arrivent, qui sont des blancs. Et on attend à trois dans le lobby. Et le shérif arrive, je vais vers lui, je me présente, je dis mon nom. Ben, à peine il m'écoute, il me dépasse et il va s'adresser directement aux deux serruriers que j'ai fait venir. Et là, il commence à leur demander s'ils sont les propriétaires de l'appartement numéro I. Mmh. Et le serrurier qui lui dit, ben, écoutez, il me montre du doigt, il dit, voilà le boss qui est arrêté là.
Ça a dû être un choc.
Ben, moi, j'étais pas du tout choqué. Et par après, ben, tout s'est bien passé.
Ah, j'en ai aussi beaucoup d'histoires, on pourrait raconter un livre, mais là justement j'ai notre ami Moussa Saïdou Abacha qui veut absolument vous faire rire un peu. Il est chanteur, comédien, humoriste, peul d'origine camerounaise et marseillais d'adoption. Vous connaissez bien le Cameroun, n'est-ce pas, cher ami?
Oui, je connais bien, ouais, je ne dirais pas bien le Cameroun, mais je connais Douala.
Alors,
j'ai été à Douala, j'ai fait pas mal de quartiers de Douala, de Bonapiso, Bonamoussadio, Akwa, Bali, oui. Je connais tous ces endroits-là.
Alors moi j'adore les proverbes africains, et d'ailleurs la semaine prochaine, si vous en avez, madame, monsieur, des proverbes, et vous-même, docteur Kalogo, n'hésitez pas de nous les envoyer ou de nous interpréter. Montrez-nous vos talents de comédien, d'humoriste. On écoute madame, monsieur, le grand, l'unique, Saïdou Abacha.
Tous les êtres humains sont pareils. Blancs, noirs, rouges, jaunes, riches, pauvres, croyants, athées. Il existe quelque part en chacun d'entre nous un petit coin qui sent mauvais. Voilà Kota Potir Gonafata. Narral Bouran, il ne sert à rien de se battre. Il vaut mieux convaincre que vaincre, parce que ce qui est convaincu est d'office vaincu, alors que ce qui est vaincu n'est pas convaincu. Quand Dieu a créé, il a d'abord créé les sages, les humains et les cons. Il a pris les sages qu'il a mélangés parmi les sages parmi les humains et les sages parmi les cons. Il a ensuite pris les humains qu'il a mélangés parmi les humains parmi les humains et les humains parmi les cons. Il a enfin pris les cons qu'il a mélangés parmi les cons parmi les humains et les cons parmi les cons. Et c'est quand les cons se retrouvent parmi les cons et qu'il leur revient la décision de décider que c'est la catastrophe.
C'est incroyable, hein?
Il est vraiment comique.
Mais c'est ça, la communauté, dans sa richesse, sa diversité, son humour et ses craintes, ses souffrances. C'est ça, le monde noir, madame, monsieur. Et vous savez, c'est à travers la musique, les chansons, l'humour que souvent on peut traverser de l'autre côté pour oublier un peu. C'est un peu comme un pansement sur nos blessures, la musique, la chanson, la poésie, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord?
Tout à fait, Eric.
Et oui, nous sommes un peu tristes parce que nous sommes arrivés presque à la fin de cette première heure avec vous. On aimerait tellement continuer jusqu'à 18h aujourd'hui, mais le décalage horaire fait défaut, n'est-ce pas? Et votre première expérience à 2 minutes, on a une minute, nous dit-on. Oui,
oui, c'est une expérience vraiment enrichissante, j'ai bien savouré. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être restés à notre compagnie pour cette émission-là et merci pour votre soutien à l'émission Popourri Show de la radio CIUT. Pour rappel, c'est au 89.5 FM tous les dimanches de 11h à 13h. Je vous souhaite bonne fête de la famille et bonne célébration du mois de l'histoire des Noirs. Notre mois, malgré les blessures et les humiliations de l'esclavage, de la colonisation et de la civilisation raciale, soyons fiers d'être restés debout, forts et dignes. Soyons fiers d'avoir su nous rebâtir et nous enrichir d'une intelligence qu'il y a dans tous les domaines.
Merci infiniment.
Félicitations.
Merci, docteur Youssouf Kalogo. Et là, j'ai une surprise pour vous. Un grand Camerounais que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Il est anthropologue, philosophe, musicien, trompettiste. J'ai nommé, bien sûr,
le grand et l'unique Manu Dibango.
Alors, vous pouvez rester avec nous et cadencer à la maison et passer vos commentaires. Bravo, tous les gens ici en studio à Toronto vous applaudissent. Moi, je suis sous le cocotier, madame, monsieur, avec des amis qui nous écoutent en direct. Et nous remercions bien sûr notre co-animateur unique, docteur Youssouf Kalogo. Il est auteur... Étude des cas aux éditions universitaires sur les eaux usées. À ne pas rater, allez sur Amazon pour avoir une copie de son livre. Si vous voulez avoir plus de renseignements, envoyez-nous un message à popourri@cut.fm. On vous remercie encore une fois, docteur Youssouf Kalogo. Voilà, les gens commencent à cadencer sur la plage. Tout le monde est heureux. On vous dit au revoir et à la prochaine à Toronto.
Merci et au revoir, Eric. À la prochaine.
Monsieur, à Toronto, où que vous soyez, j'espère que vous êtes au chaud. Dans un instant, nous allons retrouver notre ami Elikia Mpokolo qui va nous parler des archives, mais aussi tout le trésor pillé malheureusement. Et il va faire un retour avec son invité à ne pas rater juste après le point de l'actualité de Radio France Internationale. Restez des nôtres, Popourri Show vous attend.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you funk, soul, and everything in between on Higher Ground with Jason Palma. Thursday nights at 8. CIUT 89.5 FM, the sound of your city. CIUT 89.5, Toronto.
Catherine Potet.
À la une de l'actualité, des dizaines de milliers de gilets jaunes ont défilé hier à Paris et en région. 14e samedi de mobilisation consécutive, 41 500 manifestants en France, dont 5 000 à Paris, selon le ministère de l'Intérieur. À noter qu'en marge de la manifestation parisienne, le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été pris à partie dans le quartier de Montparnasse. Il a été insulté et victime de propos antisémites de la part de gilets jaunes, une scène qui a été filmé et diffusé sur toutes les télés. En Espagne, la semaine a été marquée par l'annonce d'élections législatives anticipées le 28 avril prochain et par le début du procès de 12 anciens dirigeants indépendantistes jugés à Madrid pour la tentative de sécession de la Catalogne en octobre 2017. Des dirigeants considérés comme des prisonniers politiques par les indépendantistes catalans qui se sont massivement mobilisés hier dans les rues de Barcelone, où au moins 200 000 personnes personnes ont manifesté. En Syrie, la victoire contre le groupe État islamique sera annoncée dans quelques jours, assurent désormais les forces démocratiques syriennes, l'alliance arabo-kurde soutenue par la coalition internationale qui combat les derniers djihadistes de l'EI à Barouz, dans l'est du pays. Djihadistes qui seraient cachés dans des tunnels et prêts à commettre des attaques kamikazes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 14 Tunisiens travaillant pour la principale raffinerie libyenne enlevés cette semaine par un groupe armé. Leurs ravisseurs réclament non pas de l'argent, mais la libération d'un Libyen détenu en Tunisie. Des négociations ont commencé entre Tunis et Tripoli. C'est une première historique. Le cardinal américain Théodore McCarrick a été défroqué par le Vatican hier, rendu à l'état laïque. Donc, l'homme est accusé d'abus sexuels sur au moins un mineur il y a plus de 50 ans. Une annonce qui précède de quelques jours seulement le rassemblement des présidents des conférences épiscopales du monde entier prévu jeudi prochain. Écoutez la réaction de François Deveau, le président de l'association La Parole Libérée, qui réunit les victimes des abus du père Prénat à Lyon, en France.
Je suis un peu dubitatif. Ça a plus pour objectif de montrer à l'humanité que ça y est, on prend enfin les mesures et les décisions qui s'imposent, plutôt qu'une réelle et sérieuse intention. Donc le problème, c'est que si l'Église commence à appliquer vraiment la tolérance zéro, il ne va pas rester grand monde dans cette Église-là, parce qu'entre les pédophiles et ceux qui les ont couverts, on atteint quand même des proportions, a priori, qui sont très très importantes, quoi, et dans des sphères très très hautes.
Propos recueillis par Léa Boutin-Rivière. Le palmarès de la Berlinale, le festival du film de Berlin, l'un des plus importants du monde. L'Ours d'or a été décerné à Synonyme de l'Israélien Nadav Lapid, qui raconte l'histoire d'un jeune Israélien s'expatriant en France et refusant de parler hébreu. Le prix du jury revient au Français François Ozon pour Grâce à Dieu sur les scandales de pédophilie dans l'église catholique en France. Enfin, la disparition de Bruno Gantz à l'âge de 77 ans, considéré comme un monstre sacré du cinéma européen. L'acteur suisse s'était notamment illustré avec son rôle d'ange dans Les Ailes du Désir en 1987.
Dans RFI, la radio mondiale. Il y a ce que vous écoutez sur la radio mondiale et il y a ce que vous écoutez ailleurs mais qui passe aussi par RFI. Car sur les 5 continents, plus de 600 radios programment des émissions ou des musiques réalisées, concoctées, sélectionnées par l'équipe de la production musicale. Il s'agit en fait d'un formidable courant d'échange entre RFI et ses radios partenaires. C'est tel groupe angolais dont la cassette nous est envoyée par Radio Luanda et dont les meilleurs extraits vont repartir via RFI vers le Chili, le Vietnam, les États-Unis. C'est aussi cet invraisemblable joueur de vielle que nous envoie Radio France Puy-de-Dôme et que l'on va écouter à Lima, Jakarta ou Kampala. Chaque mois, 8 programmes musicaux sont proposés aux radios du monde entier. Beaucoup de chansons françaises, bien sûr, mais aussi un hit parade européen, une sélection de musique tropicale, du jazz, du classique, de la musique traditionnelle et parfois de la salsa.
Et oui, madame, monsieur, nous continuons sur le mois de l'histoire des Noirs célébré en grande pompe ici à Toronto sur CUT 89,5 FM. Je vous rappelle que Wesley Louisin, dans les îles de Wesley, sera des nôtres, ce chanteur haïtien, vers 12h30. Et Reflet Salvéo qui réalise actuellement un sondage pour développer son plan stratégique avec son directeur général Gilles Marchildon. Mais pour tout de suite, Elikia Mbokolo, producteur et animateur du magazine Mémoire d'un continent. Y a-t-il eu pillage aux dépens des Africains? Faut-il restituer des œuvres? Comment procéder? Avec son invité Guido Cressel, directeur du Musée royal d'Afrique centrale en Belgique, en partenariat avec l'UNESCO.
Mémoire d'un continent.
Elikia Mbokolo.
Cette émission vous est présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Que faire des objets d'art et des objets culturels africains dans les musées européens, américains et autres qui se trouvent en dehors du continent africain? Voilà une grande question qui est posée depuis quelques dizaines d'années et qui revient à la charge. Des hommes d'État en ont parlé dans les années 70 déjà, entre autres le président du Zaïre de l'époque, le maréchal Mobutu Sese Seko du Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Récemment, des hommes d'État européens en ont reparlé, notamment le président français Macron. Un peu partout, il y a des entretiens, des interviews, des prises de position, parfois avec beaucoup de passion. Et nous nous trouvons aujourd'hui dans l'un des plus grands musées africains, je dirais, de l'Europe. Nous sommes au musée royal de Tervuren en Belgique. Musée qui date de plus d'un siècle déjà, puisque il faut le remonter à la fin du 19e siècle, en 1898. Musée qui est en outre en rénovation aujourd'hui. Rénovation qui veut dire aussi repositionnement peut-être des œuvres d'art africains, une manière de les rendre plus contemporains, de les montrer peut-être avec un regard plus critique. Et c'est le directeur du musée lui-même, M. Guido Grissel, qui nous reçoit. Bonjour.
Bonjour. Et aujourd'hui, enfin ce mois-ci, on existe depuis 120 ans exactement, donc on date déjà de plus d'un siècle.
C'est une très vieille maison et vous venez de prendre récemment un positionnement assez clair sur cette question, même s'il reste encore beaucoup de points à discuter. Dans un article que vous avez fait pour le journal français Le Monde, où vous dites, entre choses, ça a été le titre retenu, « L'Afrique a été pillée, nous ne pouvons pas l'ignorer ». Alors, il y a la question du pillage, il y a la question de la reconnaissance de ce pillage, mais en même temps, vous dites que la question de la restitution ou du retour de ces œuvres d'art est une question plus compliquée que celle, disons, de l'acceptation du pillage. Comment voyez-vous ça ?
Ben, d'abord, c'est vrai que ce n'est pas normal qu'une si grande partie du patrimoine culturel de l'Afrique se trouve en Europe. Hein. Déjà, du Congo, on parle de plus de 600 000 objets qui se trouvent en Europe, dont déjà 120 000 ici dans notre musée. Ce n'est pas normal, une partie de ces collections a été pillée. Et comment est-ce qu'on va traiter ça ? Comment est-ce qu'on va assurer que l'Afrique puisse avoir accès à son patrimoine culturel ? Parce que, moralement, ce patrimoine appartient à l'Afrique. Même si légalement, ça appartient, dans le cas de Tervuren, à l'État belge. Bon, comment est-ce qu'on peut assurer accès ? D'abord, c'est une situation extrêmement complexe parce qu'on ne peut pas généraliser, ça dépend un peu pays par pays. À mon avis, il faut d'abord commencer avec un dialogue, il faut se mettre autour de la table et parler franchement de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'on veut atteindre, quels sont les objectifs. Il me semble que la première chose qui doit être faite, c'est faire un inventaire de toutes les collections, de tout le patrimoine culturel qui se trouve en Europe. Ce n'est pas difficile à faire parce que chaque musée a un inventaire détaillé avec des photos. Chez nous, à Tervuren, on sait exactement comment cet objet a été récolté, comment c'est arrivé ici, comment ça a été utilisé, quelles sont les publications qui vont avec, dans quelle exposition elles ont été utilisées. Donc, ça ne prendrait pas beaucoup de temps de faire une telle liste par pays. Donc, commencer déjà avec ça, avec l'inventaire. Et ensuite, on peut discuter, voilà, à quoi est-ce que vous voulez avoir accès directement, à court terme, à long terme. Et comment est-ce que ça peut se faire ? On peut parler, bon, la restitution, ça c'est une chose, mais on pourrait parler aussi d'expositions itinérantes. On peut parler de prêts à long terme. Mais il faudra dans beaucoup de pays, parce qu'il y a certainement des pays qui ont une capacité nationale pour héberger des collections, pour avoir des expositions. Il y en a aussi d'autres où il n'y a pas de capacité nationale encore, il n'y a pas de musée. Donc on doit un peu distinguer les choses. Et donc, quand on parle de ce genre de choses, d'expositions itinérantes, même répatriement de certains objets, certainement de restes humains, là je ne pense pas qu'il y a une discussion que des restes humains doivent être répatriés au Congo, ou de retour de certains objets très, très symboliques, pourquoi pas. Donc, mais on peut en parler, mais donc ouvrons le débat. Et ensuite, il faut aussi distinguer la problématique des objets, qui est une chose, et la problématique de, par exemple, les archives, les films, les photos, où il y a des techniques disponibles, où un répatriement serait possible très vite et très facile. Par exemple, les archives, les photos, les films, on peut les numériser, on peut les renvoyer sur porteur, sur DVD, enfin comme on veut, et donner accès. Pour moi, personnellement, je trouve que même un accès aux archives est même plus important que l'accès au patrimoine culturel, parce que quelle est souvent la grande demande des Africains, qu'ils aimeraient bien écrire leur propre histoire, Comment est-ce que vous pouvez écrire votre histoire si vous n'avez pas accès aux archives? Et je ne parle pas maintenant uniquement des archives des objets ethnographiques, je parle des archives des pays colonisateurs qu'ils ont amenés et des archives qui vont sur le Rwanda, le Congo, le Burundi, le Sénégal et tout.
Jusqu'à ce sont des documents écrits, des textes de commission, des archives, tout ça. Il y a un accord, peut-être aussi des photographies, enfin, qui sont des objets d'art.
Aussi les archives qui sont à affaires étrangères, parce que maintenant tout le monde regarde le musée, mais la plupart des archives sont à affaires étrangères. L'administration par le colonisateur dans ce pays, tous ces archives se trouvent en Europe. Jusqu'à présent, aucun pays colonisateur a donné accès directement aux pays colonisés, à ces archives. Ben pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ça? Et donc, pour le moment, tout le monde parle d'objets. Moi, je parle d'une collection beaucoup plus large. Je parle aussi des archives, des photos, des films. Là, il y a des solutions à court terme qui seront possibles. Et donnons accès aux Africains, à leur patrimoine, et pas uniquement aux objets, mais aussi aux archives et les autres choses. Là, notre musée a déjà bien avancé. Quasi tous les films du période coloniale du Congo, Rwanda, Burundi, on a digitalisé, on a mis sur un DVD, on a envoyé au pays d'origine. Ben, pour les collections, je dis, ça dépend un petit peu pays par pays. Le Rwanda a un système de musée qui est très bien développé. Ils m'ont demandé le mois passé de faire des expositions itinérantes. On va le faire et en octobre cette année, on va commencer avec la première exposition qui aura au Kigali. Il y en a d'autres qui vont suivre. On parlera aussi à ce moment de l'inventaire que nous avons sur le patrimoine rwandais en Belgique. Et donc, un par un, on pourrait s'engager dans cette discussion dans une façon franche, constructive. Aussi, quand on parle de restitution, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui parle de restitution de tout ce qu'il trouve en Europe. Mais certainement, certains objets qui ont été pillés, je pense que là, il faut commencer le débat avec ces objets-là.
Lorsque j'étais étudiant et que je postulais un de ces emplois que les Blancs nous allouent, j'ai compris qu'il n'y avait pas que les bons emplois qui étaient le fait des Blancs. L'histoire dont on nous parlait était aussi celle des Blancs.
L'analyse logique et une connaissance de plus en plus grande de nos valeurs particulières, de nos possibilités réelles, nous laisse cependant exempt de tout complexe et de tout secret.
Nous sommes avec Guido Grissel au musée royal de Tervuren en Belgique pour parler de cette question des œuvres d'art d'origine africaine et de leur restitution. Vous venez de parler du Rwanda. Le Rwanda est devenu mandat de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale. Le Congo est sous l'autorité belge du roi Léopold II, puis de la Belgique depuis la fin du 19e siècle, depuis 1885 pour l'État indépendant du Congo. Il y a donc un flux d'objets beaucoup plus important compte tenu de la durée et compte tenu de l'étendue du pays. Vous évoquiez la position du général, du maréchal Mobutu Sese Seko. Est-ce que vous avez déjà entrepris, après son fameux discours à l'ONU, un processus de retour ou de restitution, et qu'est-ce que ça a donné concrètement au niveau des résultats, du nombre et de la gestion de ces ressources qui ont été renvoyées?
Le musée de Tervuren était le premier musée au monde qui a fait restitution. Donc après le fameux discours du président Mobutu à New York en 1972, je pense, il y a eu des discussions entre le président Mobutu et notre gouvernement et qui ont mené au rapatriement de 176 objets de Tervuren vers le Congo et environ 700 objets du Rwanda, qui ont été restitués vers ces pays d'origine.
La qualité de ces objets, c'est des objets, si on les cotait, sur le marché des œuvres d'art, c'est des œuvres d'une grande qualité, d'un grand prix ou...
Il y avait certaines des 176 objets qui ont été rendus au Congo, il y avait certainement une trentaine de très hautes valeurs. Ils ont été décrits, on a une publication là-dessus, sur chacun des œuvres. Les autres, c'était des beaux objets, mais pas de chefs-d'œuvre, comme on dit. Mais Après quelques années, tous ces objets ont été volés et ont été envoyés vers l'Europe et se trouvent maintenant dans les mains de gens privés en Europe, en Amérique, un peu partout. Donc c'était suite au départ du président Mobutu du Congo, dans sa fuite. On a pillé le musée national de Kinshasa et donc la plupart de ces œuvres se trouvent maintenant sur le marché international. Donc quand on commence avec rediscuter la situation de répatriement, de restitution, il faut quand même assurer que les conditions sont là pour assurer que les objets sont bien sécurisés, ne sont pas pillés, comme a été le cas il y a 40 ans.
Donc on a l'impression que dans ces discussions, ça dépend beaucoup des pays, l'Allemagne, la Suède qui a des objets aussi sans avoir colonisé l'Afrique de très très longue date, les États-Unis d'Amérique. On a l'impression que les pays qui détiennent ces objets sont... sceptique, peut-être même un peu allergique sur le principe, disons, qui pourrait être généralisé, du retour de ces objets comme faisant partie du patrimoine des pays d'origine. Est-ce que ces objets, vous les considérez comme faisant partie aussi du patrimoine, pour le cas de Tervuren de la Belgique ?
Oui, mais je pense que la réticence de certains pays ou de certains musées n'est pas tellement parce que ça consiste ici du patrimoine africain, c'est parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Hein, déjà dans le Louvre à Paris, il y a 188 objets de Flandre qui ont été pillés par Napoléon et ses troupes dans le 19e siècle, ici dans les musées et églises de la Belgique, et qui se trouvent en France. Donc il y a beaucoup d'œuvres d'art de la Belgique qui se trouvent dans un pays européen et donc, une fois qu'on commence avec la restitution vers l'Afrique, certains gens vont aussi dire, oui, mais et quoi avec nos œuvres, hein? Parce que si vous voyez, par exemple, la réticence qui est surtout très forte en Angleterre, il y a l'Athènes, la Grèce, qui est un pays européen, qui essaie d'obtenir les Elbin Marbles de l'Angleterre. Les Elbin Marbles qui ont clairement été volés, exportés illégalement. Quand on y réfléchit, il n'y a aucun argument possible pour ne pas rendre les Elgin Marbles de l'Angleterre vers la Grèce. Et pourtant, l'Angleterre refuse carrément parce qu'il ne veut pas créer un précédent. Je pense qu'une fois que ça commence avec la Grèce, c'est l'Inde, c'est le Bangladesh, c'est toutes les anciennes colonies de l'Angleterre qui vont le demander. Donc c'est une situation très complexe et je pense que c'est de là qu'ils sont un peu prudents. Mais moi, je rappelle quand même, il y a 20 ans, ou 30 ans, on avait beaucoup de ces discussions, pas notre musée, parce que nous sommes un musée sur le patrimoine africain, mais beaucoup d'autres musées en Europe avaient des relations ou développaient des relations avec l'Asie. Et là aussi, on avait le même problème qu'il y avait très peu de musées, ils n'étaient pas bien équipés, ils n'avaient pas de possibilités de conservation préventive et tout cela. Et là, petit à petit, l'Asie s'est développée, a développé la capacité nationale, et je ne pense pas qu'il y a encore un problème maintenant s'il y a un musée asiatique demande pour un prêt de collection de l'Europe qu'ils ne l'obtiennent pas. Donc les conditions sont là. C'est ça que je plaide aussi pour l'Afrique. D'abord, on doit ouvrir le débat de façon transparente, en commençant avec des expositions itinérantes, avec un renforcement des capacités nationales dans les pays africains. Et si on pourrait faire ça, on peut déjà faire un grand pas en avant. Plus la digitalisation des archives, des photos, des films. Je plaide beaucoup qu'on donne plus attention à ça aussi.
Alors, il existe à Cotonou l'EPA, l'école du patrimoine africain, qui a été fondée avec la bénédiction de l'Union africaine et puis de partenaires étrangers, dont l'un des objectifs est justement de former des cadres de très haut niveau qui soient capables d'avoir à la fois, disons, une posture morale, hein, et en même temps des compétences techniques pour la gestion de ces biens. Alors, est-ce que ça n'est pas déjà l'une des conditions qui est posée aux musées, disons, occidentaux pour la plupart, par rapport à la question du retour? Parce qu'on a l'impression que ce qui bloque, c'est à la fois l'argument technique que localement, il n'y a pas les capacités de gestion de ces ressources, et d'autre part, l'argument qui est mis sur la table, c'est que la propriété de ces biens, certes, est d'origine africaine, mais les États qui ont colonisé l'Afrique les ont acquis, et que ces biens feraient partie de leur propre patrimoine. Comment on peut faire pour sortir de ce dilemme?
Je pense que d'abord, il faudrait donner plus de ressources avec l'école patrimoine africain à à Bénin. Ils ont des grands problèmes financiers. Nous, on travaille en proche collaboration avec eux. D'ailleurs, on a un cours avec eux sur la gestion des archives. On fait ça au Bénin avec l'École patrimoine africain, avec leur institution. Ça peut vraiment assurer une collaboration sud-sud. Mais donc, si on pourrait donner à cette école encore plus de moyens, alors ils pourraient faire des efforts plus larges pour renforcer les capacités. Et moi, je préfère de loin de travailler avec ces EPA que d'organiser les cours ici à Tervuren, parce qu'à EPA, ce sont tous des gens de l'Afrique qui travaillent ensemble dans des conditions qui existent en Afrique et pas dans un environnement artificiel comme Tervuren. Et l'EPA, c'est certainement une des voies et devrait certainement être avec nous autour de la table quand on parle avec les représentants des musées africains sur le futur, sur ce répatriement, sur ces restitutions. Il faudra aussi, pour nous, il faut aussi développer une sorte de framework, un cadre dans lequel qu'est-ce qu'on peut restituer, qu'est-ce qu'on ne peut pas restituer. Certaines choses ont été obtenues légalement, d'autres choses ont été pillées, mais donc il faut faire, comme je disais au début, faire un inventaire, qu'est-ce qui existe en Europe, qu'est-ce qui est où. Ici en Belgique, pour la plupart, le patrimoine africain se trouve à Tervuren, mais si vous allez en Allemagne, moi je peux vous dire au moins 20 musées en Allemagne qui ont tous des grandes collections de l'Afrique, donc ça ne va pas être si simple que ça en Allemagne.
Et donc, par rapport à ce que le président français Macron a expliqué, qu'il est prêt à ouvrir des discussions, la Belgique. Donc, quand on dit la Belgique, ça veut dire essentiellement Tervuren, même si à Anvers et dans d'autres villes, il y a aussi des ressources venant essentiellement de l'Afrique centrale. Est-ce que, dans votre article, dans votre intervention dans le journal Le Monde, vous expliquez que ces biens sont d'origine congolaise, mais appartiennent aussi au patrimoine de la Belgique. Est-ce que ce problème juridique ou ce problème de principe peut être nuancé suffisamment pour envisager des formes de retour ?
Il faut en discuter, ça dépend un peu objet par objet. Certainement, légalement, toutes les collections qui sont dans des musées du secteur public en Belgique, ça appartient à l'État belge. Donc, toutes nos collections ici à Tervuren, formellement, appartiennent à l'État belge. Pour les faire sortir du patrimoine belge, il faut un acte parlement. Comme vous le savez, on a un parlement pas uniquement fédéral, on a un parlement flamand, un parlement bruxellois, un parlement francophone, wallon, allemande, donc on a, je pense, 10 parlements qui chacun devront rectifier cet acte. Donc ça va durer un peu de temps. De l'autre côté, il n'y a rien qui nous empêche pour déjà commencer avec des prêts à long terme et faire le processus formel entre-temps. Donc il y a plusieurs options possibles. Je ne pense pas que ça, la situation juridique devrait empêcher qu'on peut engager dans la discussion et voir les pistes.
Bon, ben voilà un point de vue qui me semble en définitive plus ouvert et plus disponible que ce que on a écrit, ce que vous avez écrit dans le journal Le Monde, qui montre que le débat est ouvert. Et en effet, ce débat entre Européens a été très virulent. On sait que la ministre de la Culture grecque, Mélina Mercouri, est montée au créneau et a eu derrière elle tous les pays anciennement colonisés qui ont dit que voilà une grande question que nous devons mettre sur la table des négociations. Merci à vous, Monsieur Guido Grissel, le directeur du musée Royal de Tervuren en Belgique, de nous avoir reçus au micro de Mémoire d'un continent.
Cette émission vous a été présentée en partenariat avec l'UNESCO.
Sur quelle planète suis-je tombée ?
La planète Terre.
Bonjour. RFI.
RFI, on en fait tout un monde.
Écoutez est la plus grande des qualités. Écoutez les enfants, les parents, les professeurs et les coéquipiers. Les discours fous des pionniers. Écoutez votre instinct et croyez en vos idées. Écoutez votre cœur et les visions encore inexprimées. Écoutez le présent et les échos du futur. Ne pas seulement entendre, écoutez. Parce que c'est seulement quand nous écoutons que nous pouvons comprendre. que nous pouvons trouver des solutions intelligentes, que nous pouvons progresser. C'est seulement en écoutant ce qui compte que nous pouvons créer des solutions qui comptent elles aussi. C'est de là que tout provient. Ce n'est pas seulement en nous, c'est notre nom.
Et oui, merci beaucoup Elikiem Bokolo, que nous allons rencontrer très prochainement du magazine, grand animateur et producteur du magazine Mémoire d'un continent. Et oui, y a-t-il eu pillage aux dépens des Africains ? Émission très réussie et qui nous fait réfléchir justement sur le pillage des œuvres d'art des Africains. Wesley Louisin nous écoute et nous attend en direct de Montréal. Il est l'artiste nominé pour la 48e édition annuelle des prix Juno pour son album Rapadou Créole. Et nous pensons bien sûr à tous nos amis haïtiens qui nous écoutent à Port-au-Prince et entre autres Obed Lamy qui devait être des nôtres cette semaine, mais pour des raisons de sécurité mais aussi manque de temps, il sera des nôtres la semaine prochaine pour sa chronique créole et en français. Gilles Marchildon, directeur général du Reflet Salvéo, notre partenaire en santé, vous invite à contribuer à sa nouvelle planification stratégique. Allez sur le site reflet-salvéo.ca. Il sera des nôtres avant la fin de l'émission, c'est promis. Il va co-animer peut-être les 5 dernières minutes de l'émission. Et oui, répondez correctement à toutes les questions du mois et courez la chance de gagner le prix de nos partenaires, peut-être un voyage pour deux dans les Antilles ou encore en Afrique quelque part ou à l'île Maurice. Tenez-vous bien, êtes-vous prêt? Cette personne est la plus grande vedette d'athlétisme de l'histoire canadienne. Elle a remporté des médailles d'or au sprint de 100 mètres et au relais 4 fois 100 mètres. Qui est-ce? A. Harry Jerome. B. Michael Smith. C. Angela Isajenko et D. Donovan Bailey. Je répète la question, il faut répondre correctement à toutes les questions tout au long du mois. Il faut répondre correctement à toutes les questions, je répète, tout au long du mois de février. Cette personne est la plus grande vedette d'athlétisme de l'histoire canadienne. Elle a remporté des médailles d'or au sprint de 100 mètres et au relais 4 fois 100 mètres. Qui est-ce? La réponse A, Harry Jerome. B, Michael Smith. C, Angela Isenchupo. Et D, Donovan Bailey. Allez, participez. J'ai des billets, madame, monsieur, grâce à notre ami théâtre français, mais aussi José Durand-Leau, qui vous invite à aller voir un spectacle sensationnel, à vous faire bouger, qui s'intitule 26 lettres à danser de la compagnie montréalaise Bouge de là, offert par le Young People's Theatre.ca. Allez sur leur site, vous allez cadencer 2 billets pour vous pour les spectacles au mois de mars. Et oui, nous célébrons le mois de la francophonie, madame, monsieur. Et oui, ça va bouger tout au long du mois de mars. Si vous voulez être partenaire, être parmi nos invités ou co-animateurs, co-animatrices, envoyez-nous immédiatement, je répète, pour le mois de la francophonie international, envoyez-nous un message immédiatement à Toronto, popourri@cut.fm. Le mois de l'histoire des Noirs, devoir de mémoire. Dans un instant, nous allons recevoir le Montréalais haïtien qui nous écoute et qui nous présente son dernier album. Il est nominé au prix Juno 2019. Rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière édition, le mois de l'histoire des Noirs. Grand tirage suite à nos jeux concours. On casse, on brise les codes. Attention aux cœurs sensibles. Pour y participer, popourri@cut.fm. Bon popourri.
CIUT 89.5 Toronto.
Chaque dimanche, découvrez les enjeux, l'histoire et les influences de la francophonie grâce au magazine de Radio France Internationale et votre radio CUT 89,5 FM. Vous écoutez écoutez Potpourri Show sur CUT 89,5 FM. Une émission présentée en partenariat avec le département de français, campus Saint-Georges, le département d'études langagières, campus de Mississauga, à l'Université de Toronto, le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, l'Express de Toronto et Radio France Internationale. Potpourri Show, 30 ans déjà. Toute la diversité du monde sur votre fréquence et sur www.cut.fm ou www.popourichaud.com. Soyez des nôtres chaque dimanche de 11h à 13h sur CUT
89,5 FM.
Celui qui a gagné le prix Radio-Canada comme révélation de l'année 2009-2010 et il a reçu le prix Babel Med Music France 2010. Eh oui, il est guitariste, percussionniste, chanteur, madame, monsieur Wesley, qui est né à Port-au-Prince, sera des nôtres dans une fraction de seconde. Complètement dans le créole des descendants de Yoruba. Ce nouvel opus, c'est de Wesley, Rapoudou Créole. Bonjour, cher ami Wesley, ça va?
Ça va bien, bonjour à tout le monde, bonjour à tous vos auditeurs. Et puis je suis très content d'être avec vous aujourd'hui, ce dimanche.
Ouais. Voilà. Il y a beaucoup d'Haïtiens de la région de Toronto, de Gatineau, d'Ottawa, de Hamilton, de Welland, de Sainte-Catherine qui voulaient absolument vous entendre et peut-être un jour vous serez des nôtres lors d'un grand gala, d'un spectacle à Toronto. Est-ce que vous avez un rêve un jour de venir faire carrière chez nous en Ontario à Toronto?
Je pense que oui. Écoutez, pourquoi pas? Moi, j'aime beaucoup... Le Canada, j'aime partout, j'aime ça, j'ai déjà habité à Québec, j'ai déjà habité aussi à Montréal, mais un jour peut-être c'est l'Ontario qui va m'appeler, en tout cas.
Alors,
j'attends l'appel.
Voilà. Parlez-nous un petit peu de ce Rapadou Créole, c'est un titre qui fait référence, moi je le sais, mais on va vous laisser transcrire aux auditeurs ce que veut dire vraiment Rapadou Créole.
Bon, Rapadou, tu vois, c'est un genre de sucre de canne conservé dans un bois de bambou qui est devenu dur avec un petit peu de fermentation, pas beaucoup pour que ça devienne alcool, mais c'est vraiment la dureté du sucre de canne dans un bambou. C'est avec ça qu'on sucre notre café le matin, surtout dans la région du centre d'Haïti d'où vient vraiment cette culture de Rapadou. Alors, c'est pour cela que j'appelle mon album Rapadou Créole. Ça veut dire que le sucre du matin en créole.
Et vous voulez aussi transmettre à travers cet album un message universel, porteur d'espoir, de valeurs sociales, de solidarité, de justice, de partage. Et moi, personnellement, né dans une île, quelque part dans l'océan Indien, je revois un peu mon Afrique, je revois un peu les îles de l'océan Indien, je revois Haïti, je revois Guadeloupe, Martinique. Comment avez-vous fait, justement, pour nous transmettre, vous qui êtes né en Haïti, tous ces rythmes à travers cet album?
Bon, ça, c'est à travers une recherche vraiment approfondi que j'ai fait cet album, en fait, parce que Haïti, il y a tous ces rythmes qui sont en Haïti actuellement là, dans le côté quand je dis côté centre d'Haïti comme au Gonaïve, il y a la Koukongo, la Koussoukri, la Koubadjo, tous ces trouvent là qu'on conserve ces rythmes ensoleillés, qu'on conserve ces rythmes afro, caribéens, toutes sortes de trucs vraiment qui portent l'héritage africain qu'on a. On conserve ça dans ces temples. On appelle ça des temples culturels. Alors, c'est avec cette recherche que j'ai fait dans ces temples culturels que j'arrive à faire quand même des similarités avec tous ces rythmes des Antilles, de l'océan Indien. Tout le monde entend leur culture dans cet album. Pourtant, tous ces rythmes existent vivants en Haïti. En fait.
Vous savez que il y a des gens qui nous écoutent actuellement à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, à Rodrigue, l'île Rodrigue, Seychelles, à travers notre émission, à travers votre musique. On est allé rejoindre justement cet auditoire et depuis 32 ans, les gens se raffolent de ces rythmes qu'on n'entend pas nécessairement toujours dans nos radios commerciales, il faut bien admettre. Comment se passe un peu votre vie, votre vécu, votre avenir à Montréal ou au Québec?
À Montréal et au Québec, mon avenir de musique, en fait, ça se passe très bien. Vu que, tu vois, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans le côté création, qui pousse la création très loin, et je pousse aussi le côté hommage à la culture très très loin dans ma musique. Moi, je ne suis pas vraiment une personne de radio commerciale qui attend que le monde, tout le monde emballe ou bien ma musique devient une musique populaire. C'est loin de là. Moi, je crée juste en référence avec des cultures, en référence avec des valeurs sociales, en référence avec des valeurs culturelles. Et aussi, je suis un homme humanitaire. J'apporte de l'espoir, j'apporte de la vie aux gens, j'apporte surtout au peuple haïtien. J'apporte à eux de l'espoir, une façon de vivre, une façon de voir les choses. Surtout notre pays a beaucoup de problèmes en ce moment, comme vous remarquez, et ça l'a été toujours. Alors, je pense que avec tout ça, je ne pense pas vraiment au côté commercial de ma musique. Je pense plutôt au côté de bien-être que j'apporte avec ces genres de musique-là. Voilà.
Alors, madame, monsieur, je vous rappelle que j'ai l'honneur d'ailleurs d'être avec l'artiste nominé pour la 48e édition annuelle des prix Juno pour son album Rapadou Créole. Il est originaire d'Haïti, mais il vit à Montréal. Wesley Louisa. On dit aussi, il y a un article que j'ai lu quelque part qui dit « Dans les îles de Wesley ». Et on est allé, on a des antennes un peu partout, hein, on vous suit. Peut-être vous ne vous remarquez pas, il y a des caméras cachées qui vous suivent. Il faut faire attention des fois. Écoutez un extrait d'un entretien qu'on a capté sur le vif. On écoute.
Le Wesley que vous avez connu, c'était Wesley qui a commencé très très loin. Vous l'avez reconnu quand il avait à peine commencé. C'est sûr que, tu vois, quand vous m'aviez connu, vraiment, j'avais pas beaucoup d'expérience sur la scène. Mais ce que je savais faire, j'étais quand même un musicien qui était capable de jouer plusieurs instruments, qui était capable de composer des chansons catchy. J'avais beaucoup de choses, de bagages musical, mais ça me prenait vraiment l'expérience de public, tous des échanges, expérience d'album. Vous savez que c'est tout un tout qui fait un artiste, tu comprends? Oui. C'est pas juste avec le talent qu'on va réussir à faire des miracles. On a besoin de l'expérience de la route, on a besoin de l'expérience des fans. On a besoin, c'est tous ces échanges d'expérience là qui fait que Wesley est devenu quelqu'un de mature, de prêt, d'être capable, de professionnel et tout. Voilà.
Alors, vous êtes vraiment mature maintenant?
Alors, je me rappelle de cette entrevue là, mais je me rappelle pas c'est où que je l'avais fait.
Ah, il faut faire attention. Alors, non, mais. En tout cas, vous pourrez être aussi un acteur. Vous avez un corps formidable, une prestation en scène, vous chantez bien, vous êtes toujours accompagné de très belles danseuses, n'est-ce pas? Parlez-nous un petit peu justement de votre... Parlez-nous un petit peu de votre groupe. Comment faites-vous pour aller chercher ces danseuses? Et surtout, il y en a beaucoup qui sont originaires d'Haïti, hein?
Oui, c'est tout... elles sont toutes originaires de Haïti, en fait.
Oui.
Soit nées en Haïti ou nées hors d'Haïti, mais on a tout embrassé cette culture haïtienne qui est très riche. On va chercher la danse, on va chercher tout ça. Bon, je peux vous dire que je suis quand même chanceux d'avoir autant de bons musiciens autour de moi, d'avoir autant de monde professionnel aussi qui respecte la culture. Alors moi, je suis quelqu'un culturel à 200%. Je veux que ça soit à son meilleur. Alors c'est pour cela que je vais recruter ces gens-là qui ont ce même respect à la culture quand il s'agit de la culture haïtienne, quand il s'agit de notre racine africaine, que ça soit très présente et que ça soit très forte. Alors ces gens-là, ils viennent un peu de partout. Normalement, je garde la majorité quand même haïtienne, mais j'ai quand même des Africains, ivoiriens qui fait partie de mon groupe. Il y en a d'autres encore qui viennent. J'ai déjà eu un bassiste mauricien, un bassiste contre bassiste mauricien à un moment donné. Ouais. Et puis j'ai déjà eu aussi des gens qui jouaient que un percussionniste de Maloya à un moment donné qui a joué avec moi pendant aux environs une tournée en France à peu près pendant 7 mois ou 8 mois. Alors je peux vous dire que cette façon, ma musique, c'est là pour partager.
C'est un vrai métissage. C'est un vrai métissage.
Oui.
Alors, voilà. Cinquième album, donc, numéro 5, Rapadou Créole. Et puis, vous avez annoncé l'année dernière, je pense, que vous préparez peut-être un sixième album aux accents plus urbains intitulé Tradition. Est-ce que c'est prêt? C'est pas prêt? Quand est-ce que ça va sortir?
C'est prêt. Tradition est super prêt, en fait. C'est parce que on avait eu quand même un record label aux États-Unis qui prenait sur son aile la sortie de Tradition, qui avait un peu dilé la sortie, vu que, tu vois, Rapadou Créole, ça fait quand même un gros ravage. Tout le monde voulait entendre plus, savoir plus de Rapadou Créole. On voulait pas obstruer, tu vois, la lumière de Rapadou Créole. C'est pour ça qu'on a dilé un peu Tradition, mais Tradition était déjà prêt depuis le mois de juillet passé. Et je pense que Tradition va sortir ce printemps. Alors,
Est-ce que vous pourrez nous donner l'exclusivité et le scoop quand ce sera prêt, s'il vous plaît?
Oui, vous aurez l'exclusivité, je vous le promets.
Vous savez combien de millions d'auditeurs et d'internautes vous écoutent là? Là, vous prenez une grande promesse, vous faites promesse à une grande équipe. Et là, ça va rester dans nos archives et on reviendra vous chasser à Montréal, en Europe, en Haïti, où que vous serez. Alors donc, Tradition, et on vous souhaite bonne chance pour le prix Juno. Est-ce que vous avez des indices? Est-ce que vous êtes vraiment parmi les gagnants, les top des tops?
Alors moi, c'est pour te dire que d'être nominé au Juno, je suis déjà un gagnant. Parce que, laisse-moi vous dire que le Juno, c'est à l'échelle du Canada, et je respecte beaucoup l'Académie, je respecte beaucoup tout le travail qu'ils font pour rapporter des talents. D'ailleurs, de choisir 5 talents parmi 100, ça prend vraiment une forme de d'être capable d'aller chercher vraiment les vrais et les plus forts. Alors moi, d'être parmi les 5 sur 100, alors je me sens déjà gagnant et je vais continuer à partager ma musique. Déjà, c'est ça qui me donne la force de partager ma musique à travers le monde et je serai toujours à la disposition du grand public, de tout le monde qui aime la musique.
Voilà. Mesdames et messieurs, applaudissons chaleureusement notre invité artiste du mois de l'histoire des Noirs, Wesley Toussaint. Et je vous rappelle qu'il est nominé au prochain prix Juno pour son album Rapadou Créole. Et on vous laisse avec un autre titre de son album. On vous souhaite bonne chance. Bonjour tout moun lav. Un petit mot en créole. Un petit mot en créole.
Kembe la tout moun palake. Mwen rembe nou en pile, en pile, en pile.
Si Ayuti et Ilan pour 5 FM. Allez, un salut, à très bientôt Wesley.
À très bientôt tout le monde, merci.
C'est inutile. Take it.
Merci beaucoup Wesley et merci à toute son équipe pour avoir facilité cet entretien. Près de 180 universitaires et professionnels de la santé francophone ont participé à un colloque annuel de l'Agence universitaire de la francophonie le 6 et 7 novembre dernier sur le campus Erasme en Belgique. Nous y étions et ce colloque a été organisé en partenariat avec l'Université libre de Bruxelles et son école de santé publique sur le thème « La contribution des établissements d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace francophone à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques de santé publique ». Avant d'accueillir notre prochain invité et partenaire en santé, Gilles Marchildon de Reflet Salvéo, on en écoute un court extrait.
Je pense qu'il faut pas en discuter seulement entre professionnels ou entre universitaires. Il faut impliquer la carte mémoire de l'ordinateur, c'est-à-dire les patients partenaires, des gens qui ont vécu des expertises importantes avec leur maladie.
N'oublions pas qu'il y a aussi une menace éthique. Quelle sécurité on peut mettre en place sur les données qui actuellement circulent dans de nombreux endroits? Et c'est un sujet, à mon avis, qui est loin d'être anecdotique et qu'il va falloir traiter sérieusement.
Je pense que ce qui est vraiment important, c'est de revenir à la base de la santé publique, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qui se passe au niveau des déterminants sociaux de la santé et pourquoi les inégalités sociales de santé sont perpétuées et continuent dans différentes sociétés, qu'elles soient dans les pays à revenus élevés ou dans les pays à revenus faibles et intermédiaires.
Pensez qu'aujourd'hui, vous avez parlé du patient partenaire, on pourrait parler des organisations internationales, on pourrait parler aussi des ONG, on pourrait parler du secteur privé. Ils ont un rôle aujourd'hui dans l'apport de réponse aux grands problèmes de santé globale.
Et oui, nous sommes à 40 degrés à l'ombre, madame, monsieur. J'espère que vous êtes bien à Toronto. Notre partenaire en santé, Reflet Salvéo, entité de planification, conseillant les Airlis du centre-ouest de Mississauga-Halton et du centre de Toronto, vous sollicite concernant l'élaboration de son nouveau plan stratégique triennal à travers un sondage.
Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous avez rempli ce sondage?
Et oui, est-ce qu'il est là, notre cher partenaire en français, le directeur général de Reflet Salvéo, M. Gilles Marchildon, qui va terminer cette émission en beauté, je l'espère. Bonjour Gilles.
Oui, bonjour Eric.
Comment
merci
faites-vous
de m'inviter.
Oui, quel temps fait-il à Toronto chez vous?
Écoute, c'est toujours l'hiver ici aussi, mais il fait soleil, il fait chaud dans nos cœurs.
Venez chez moi. Babette de Rosière est avec moi. Elle veut absolument vous rencontrer un jour. Elle est la reine de la cuisine créole. Elle est aussi une experte de tous les terroirs, qu'ils soient normands, auvergnats, québécois, sud-vietnamiens. Et à chaque une de ses émissions, parce que c'est une grande dame de la télévision, elle est guadeloupéenne, je ne vous dirai pas où je suis, mais elle est de la Guadeloupe. Et elle vous offre un risotto de riz vénéré aux queues de crevettes et de légumes croquants. Est-ce que cela vous intéresse?
Oh là là, j'ai faim. J'ai l'estomac qui déjà anticipe ce plat.
Il dit qu'il a faim. Il a déjà l'estomac. Alors, il y a aussi une tarte tatin à la papaye au goût d'amande.
Oh, mais cessez, vous allez me faire évanouir de faim.
Alors, aujourd'hui, on a une émission extraordinaire parce que on a eu ce grand professeur et écrivain, auteur, Dr Kalogo, qui aimerait bien vous rencontrer un jour, je pense. Il siège au conseil d'administration du Centre francophone de Toronto et il vous écoute en ce moment et peut-être à travers les ondes, la magie des ondes, la magie de la radio, un jour peut-être les grands esprits vont se retrouver, vont se connaître, n'est-ce pas?
Oui, c'est ce que les dictons le suggèrent.
Alors, Reflet Salvéo, comment va Reflet Salvéo après les changements en choc et les petites histoires qu'on a reçues, qu'on a dû subir, au fait, depuis l'année dernière dans les services en français?
Bien, pour l'instant, les changements, on les attend. Et entre-temps, on fait notre travail. Mmh. On continue à faire des recherches, des études, à faire des recommandations pour améliorer l'accès au service de santé en France.
Oui. Et je voulais absolument vous avoir à cette émission parce que la communauté africaine, antillaise, ceux qui parlent français, ont aussi à participer dans ces études, ces sondages, parce que pour vous, c'est très important d'avoir monsieur, madame, tout le monde. Quand on parle de services en santé, quand on parle de services essentiels en français, cela ne regarde pas seulement les gens originaires du Canada ou de l'Ontario ou du Québec, mais c'est aussi la communauté immigrante, et aujourd'hui ils sont de deuxième, troisième génération, n'est-ce pas ? C'est très important d'avoir, de capturer un peu ces gens venant de partout et d'ailleurs.
Tout à fait, et je vous dirais que notre sondage pour la planification stratégique, on devait à l'origine, on devait le fermer, le conclure vendredi dernier, mais sachant que j'allais participer à l'émission ce matin, on a prolongé la fin du sondage jusqu'à ce soir minuit pour permettre aux éditeurs, aux participants à l'émission de pouvoir participer si ce n'était pas encore déjà fait.
Oui. Moi, j'ai demandé à l'équipe, on l'a participé. Ça prend en effet même pas 10 minutes et c'est très simple. Le langage est très lisible, très facile à comprendre, madame, monsieur, parce que souvent, les gens disent « Est-ce qu'ils vont avoir à mes données personnelles pour aller faire quelque chose du commerce avec ?» Mais non, c'est anonyme. Votre nom, votre adresse courriel ne sera pas su de personne. Expliquez justement aux gens qui nous écoutent, aux auditeurs qui sont un peu sensibles à participer à des sondages, qui ont peur de participer à des sondages, parlez un petit peu du processus.
Ben, c'est un sondage complètement anonyme, confidentiel. Et si vous voulez, on veut prendre le pouls. Mmh. Je peux emprunter l'expression médicale. C'est qu'on veut que nos actions à l'avenir reflètent, on s'appelle reflet Salveo, après tout, on veut que nos actions reflètent la communauté et ses besoins en matière de santé. Donc, même si peut-être vous ne connaissez pas notre organisme ou que vous n'ayez pas eu recours à des services de santé, participez quand même parce que ça va nous aider, ça va nous orienter.
Oui, et je pense que dans le passé, vous avez demandez justement aux gens de participer à des sondages sur la santé mentale, par exemple, et vous avez eu des ateliers extraordinaires. C'était émouvant de voir que les gens finalement sont venus et là, ils ont appris quelque chose. Parce qu'il y a des sujets qui sont encore tabous, malheureusement. Hein?
Tout à fait. La santé mentale, c'en est un. Et je dirais peut-être particulièrement chez les communautés de nouveaux arrivants.
Voilà.
Et l'année, trois ans, on avait fait une étude qui portait justement sur la perception de la santé mentale au sein des communautés de nouveaux arrivants. Et depuis ce temps-là, on travaille là-dessus. On a toujours une campagne, d'ailleurs, active sur notre site web, reflet-salveo.ca/santé-mentale.
Très bien. Alors, comment faire, comment procéder pour avoir accès au sondage?
Alors, c'est rien de plus simple. Rendez-vous à notre site web, reflet-salveo.ca, et vous allez voir, c'est une des vignettes affichées sur la page d'accueil.
Oui. Alors, il y a mon amie ici, Babette, me dit si elle peut y participer, même si elle est à l'étranger.
Écoute, tous les points de vue sont les bienvenus. N'hésitez pas. Il y a une question qui demande votre localisation, alors ça nous permet de savoir quelle est votre perspective.
Oui. Alors, comme vous êtes avec moi, on va terminer cette émission, troisième édition de Mois de l'Histoire des Noirs. On va remercier Dr Youssouf Kalogo, qui était mon co-animateur pour la première heure, Wesley Louisin, que vous avez peut-être entendu en direct de Montréal. Il est bien, hein, ce jeune homme?
Oh, tout à fait, oui.
Le conteur et humoriste Moussa Saïdou Abacha avec ses proverbes africains. Je ne sais pas si vous avez aimé. Elikia Mbokolo de Radio France Internationale, DJ Devera, Jennifer Sloan, TV5 Monde, France 24, RFI Canal Plus Afrique. Et rendez-vous, madame, monsieur, dimanche prochain pour la dernière émission, Mois de l'Histoire des Noirs. Grand tirage à suite à nos jeux concours. On casse, on brise les codes, les tabous. Attention aux cœurs sensibles. Et bien sûr, nous remercions Reflet Salveo, qui est notre partenaire en santé de choix. Merci d'appuyer, de commanditer notre émission, cher Gilles Marchildon. Et je vous souhaite un bon mois de l'Histoire des Noirs et bon mois de la famille, bonne journée de la famille. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous souhaiter encore?
La bonne santé.
La bonne santé, en effet. Et revenez-nous si vous avez d'autres innovations, d'autres nouvelles pour les prochaines semaines. On est toujours là à vous recevoir. Et notre ami vous offre des calamars farcis de morue, crème de homard et son gâteau de potiron, si cela vous intéresse. Il y a aussi des brochettes de moules à la crème de coco au curry vert épicé. Voilà, je vous laisse avec tout ça, Gilles Marcheldon, déguster en notre nom. Et je vous dis bonne journée et bonne semaine. Au revoir.
Merci à vous.
Africa, yeah, yeah. 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 Yeah, y